France Inter, le 13-14, Marion Loup.
On a appris aux mecs à chercher dans le non. Oui. Mais non, faut arrêter. Mais parce qu'on a appris aux filles à dire non alors qu'elles voudraient dire oui.
Extrait du documentaire L'amour à la française, diffusé lundi prochain sur France 3, mélange d'archives d'hier et de témoignages d'aujourd'hui. Français plus ou moins connu, de cette jeune Anna Luna qu'on vient d'entendre à l'acteur Jean-Pierre Darroussin, en passant par Geneviève Fraisse, Dave, Cédric Clapiche ou Claire Chazal. Ces trois épisodes retracent dans un style très rythmé l'histoire de l'amour depuis la Révolution et font se heurter les paroles actuelles et les évolutions d'hier qui ont toutes laissé leurs traces dans nos comportements et nos relations. Mariage arrangé, mythe du prince charmant, galanterie, émancipation des femmes, notion de consentement, égalité entre homo et hétérosexuel. Pour parler avec nous de cet amour à la française aujourd'hui, la réalisatrice et scénariste du documentaire Françoise Davis, bonjour.
Bonjour.
Et l'auteur et historien Karl Aderholt, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, pourquoi vous dites, je vais peut-être commencer avec vous Karl Aderholt, pourquoi vous dites que l'amour est né le 20 septembre 1792
C'est une formule un peu lapidaire pour expliquer le grand changement qu'a été la Révolution française. Parce que la Révolution française va poser ensuite un problème à la société française tout au long du 19e siècle, à savoir d'abord le fait que la Déclaration des droits de l'homme instaure l'égalité entre les hommes, mais aussi entre les femmes, et ça on verra que sur l'amour ça va poser un certain nombre de questions, et l'autre chose c'est qu'elle transforme le mariage en un contrat, c'est-à-dire que ce n'est plus un sacrement. Et du coup, en instaurant le mariage, elle instaure aussi le divorce, puisque la liberté du choix est importante, et donc c'est le divorce avec consentement mutuel, c'est-à-dire un siècle et demi avant qu'il soit enfin admis dans la loi française en 1975.
Et donc paradoxalement, l'amour moderne naît avec l'apparition du divorce par consentement.
Oui, c'est ça, parce que qui dit choix dit liberté du choix, et donc de pouvoir aussi se séparer quand les choses ne vont plus.
Il y a vraiment une spécificité de l'amour à la française, je me tourne vers vous peut-être Françoise Davis.
Alors ce qui est différent, c'est cette question de l'égalité, parce que là ailleurs, bien sûr que c'est nous on a écrit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et du coup il faut, enfin le débat entre les hommes et les femmes c'est surtout au 19e siècle, c'est est-ce que s'il y a égalité, mais alors est-ce qu'il y a une différence, comment on va faire, etc. Et elles l'ont payé très très cher, et donc c'est construit l'idée d'un amour à la française qui serait galant. Alors la galanterie avant existait, hein, avant la Révolution française, sauf que la galanterie utilisée après au 19e siècle, c'est vraiment pour dire on est galant, c'est-à-dire que vous les femmes, certes vous êtes peut-être égales, mais enfin il vaut mieux vous rester à votre place, et on invente la sphère privée. Et donc l'amour à la française, c'est un amour qui est pas forcément un grand rêve, hein. Voilà.
Karl Aderholt, vous êtes d'accord si on compare à nos voisins par exemple?
Oui, bien sûr, il y a cette question de l'égalité, c'est-à-dire les femmes sont égales en droit, mais en pratique elles ne le sont pas, c'est propre à la France. Alors après, il y a des choses qui se retrouvent, mais il y a par exemple cette histoire de la galanterie, effectivement, qui est très très importante en France, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant dans l'histoire française, l'intervention des médecins, qui jouent un très très grand rôle au 19e siècle, parce que curieusement, les médecins ont beaucoup de choses à dire sur l'amour. Ils expliquent aux hommes et aux femmes ce que c'est que l'amour, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et même jusque dans la chambre à coucher, puisque la sexualité est régie au 19e siècle par les médecins.
Donc le devoir conjugal le samedi soir, par exemple.
Par exemple. Mais ils inventent un mythe, les médecins, qui est très intéressant, parce qu'il a encore cours aujourd'hui, c'est l'idée que les hommes ont des plus gros besoins sexuels que les femmes. Donc les femmes ne seraient pas intéressées par l'amour, par le sexe, mais les hommes, eux, au contraire, seraient pratiquement centrés que là-dessus. Cette mythologie, enfin ce mythe, vraiment, il continue encore aujourd'hui, puisque les témoins qu'on a interviewés, il y a beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui pensent effectivement que le sexe n'est pas une affaire de femme, mais plutôt une affaire de garçon.
Et ça, c'est français?
Ça, c'est particulièrement français, parce que, en France, a pris une importance énorme ce qu'on appelle le mariage arrangé, c'est-à-dire le mariage sans amour. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste les désirs et les envies, et ce qui fait que on va autoriser les hommes à aller chercher ailleurs leur satisfaction, et on va inculquer aux femmes le fait que le sexe n'est pas intéressant pour elles, n'est pas une bonne chose, et au contraire même est dangereux.
Françoise Davis, dans ce documentaire, il y a beaucoup de témoins qui sont plus ou moins connus, hein, j'en citais quelques-uns tout à l'heure. Vous les avez choisis comment ?
Alors, on voulait, c'est un peu l'idée qu'on avait aussi pour Histoire d'une Nation, on voulait absolument qu'il y ait tous les âges, qu'il y ait des milieux différents, des façons de voir différentes, évidemment des orientations sexuelles différentes, et puis aussi même de façon géographique, dispatchée un peu géographiquement. Et l'autre chose qu'on souhaitait, et qui n'est pas si simple, c'est qu'ils puissent raconter des histoires sur leurs parents et leurs grands-parents. Or, ce qu'on a découvert, c'est que l'amour ne se transmet pas. C'est-à-dire qu'on raconte pas.
Oui.
On raconte pas, voilà, ça se transmet l'amour familial, mais on ne transmet pas comment on s'est rencontrés, comment on s'est déclaré, etc. Et alors du coup, c'est pas évident de trouver des gens qui savent comment ça s'est passé pour leurs parents, pour leurs grands-parents.
Et ça a été facile, en revanche, de faire se livrer ces témoins que vous aviez choisis, parce que c'est un sujet particulièrement intime, notamment quand on aborde toute la question de la sexualité.
Alors facile non bien sûr hein, mais surtout il y a une pression enfin en tout cas sur les gens connus en ce moment ils ont très très peur de parler d'amour parce qu'ils ont peur d'être incriminés je pense donc ça a été pas facile et je salue ceux qui ont bien voulu parce que ils nous ont fait confiance et puis ils ont pris ce risque là de parler d'amour après nous on leur demande pas de s'allonger sur un divan et de nous raconter leur vie c'était vraiment leur façon de voir leur ressenti c'est très chaleureux quoi dans la façon d'interviewer, le dialogue qui se met en place. Mais ce qui est beau, c'est que du coup, il y a vraiment un espèce de cœur qui se dégage de gens très différents qui partagent leurs expériences. Quoi.
Et pourquoi vous avez choisi Emmanuelle Béart pour faire la voix off du documentaire ? On l'entend raconter en fait pendant les 3 épisodes. C'est elle qui raconte, c'est elle la narratrice.
C'est la narratrice, oui. Ben, parce qu'on trouvait que sa voix justement était accueillante, chaleureuse. Quand même ferme, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on raconte des choses pas forcément toujours très consensuelles, hein, et donc elle les porte d'une façon chaleureuse, non agressive, mais en même temps, bon, comme les femmes d'aujourd'hui, quoi. Et donc je trouvais qu'elle était la bonne personne pour faire ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'elle a accepté avec plaisir parce que ça, ce qu'on racontait, cette histoire-là, elle le partageait, quoi. Et donc on la remercie aussi.
Carla Darold. C'est facile d'accéder aux sources et aux archives pour traiter ce genre de sujet. Il n'y a pas de tabou, de choses qui sont classées, pas secret défense, mais presque.
Si, c'est assez compliqué, en fait. Et surtout, la parole des hommes est extrêmement prédominante, à la fois dans les livres, mais aussi dans les journaux intimes, etc. Mais malgré tout, les historiens ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la question et on a... quelques très très beaux témoignages de femmes au 19e, notamment avec la naissance du flirt qui change les choses, puisque dans le flirt les premiers pas ne sont plus réservés aux hommes, les femmes peuvent aussi faire les premiers pas, et ça change beaucoup de choses. Et dans les journaux intimes, les femmes racontent cette incroyable découverte.
C'est une importation américaine,
ce qui donne lieu d'ailleurs à un débat très très virulent dans la société entre la galanterie qui serait garante des valeurs françaises et le flirt qui tout d'un coup serait une sorte de destruction de la civilisation française. C'est ce qui est assez amusant parce que le flirt, c'est juste l'égalité entre hommes et femmes. Et on le repousse au nom de la galanterie parce que, comme le dit un journaliste, si les femmes se mettent à faire les premiers pas, où est le plaisir de la conquête ?
De manière générale, Carla Darold, ce que montrent les 3 épisodes du documentaire et le livre qui l'accompagne, qui est paru chez First, c'est que l'histoire de l'amour, c'est une histoire des droits et de leur progression. On aime mieux quand on a liberté et égalité.
Oui, ça paraît assez évident et c'est très intéressant de voir comment l'amour n'est pas seulement une affaire intime, mais aussi une affaire d'État. C'est-à-dire que l'État, tout au long de siècles, est intervenu pour réguler les rapports amoureux, pour les encadrer. Et donc, on aime aussi en fonction de son époque.
Et quelles sont les grandes étapes, les grandes dates peut-être qu'on peut retenir dans cette progression ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une progression. C'est-à-dire que
il y a
des allers-retours et parfois de violents retours en arrière. Bon, il y a évidemment la Révolution française qui marque un tournant. Je dirais qu'il y a aussi le Second Empire qui, lui, pour le coup, va beaucoup dans l'autre sens. Et il y a beaucoup de mythes que nous avons aujourd'hui dans la tête qui sont nés à cette époque-là. Il y a les années 30 avec l'invention du coup de foudre, où tout d'un coup, pour trouver le bon, il faut forcément être amoureux. Et puis, bien évidemment, les années 70 qui ont constitué un changement incroyable dans les rapports hommes-femmes et du coup aussi dans les relations amoureuses.
Marie-Jeanne est au Standard de France Inter. Bonjour Marie-Jeanne.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Françoise Davis et Carla Darold.
Oui, écoutez, moi, je suis grand-mère. J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants et je suis absolument effarée de voir l'importance des réseaux sociaux dans les relations entre les uns et les autres, et particulièrement sentimentales aussi. Je trouve que ça tue complètement la notion d'amour tel qu'on l'a connu. Autrefois, il y avait des bals, il y avait des réunions, il y a même des associations, etc. Les gens pouvaient se rencontrer. Et là, maintenant, tout est fabriqué, tout est complètement, anormalisé pour moi. Et je trouve ça très choquant. Voilà, c'est surtout du sexe, en fait.
Donc, merci pour votre témoignage, Marie-Jeanne. Qui veut répondre? Françoise Davis, Carla Derolle?
Moi, je veux bien.
Françoise Davis.
On a toujours un peu peur hein, des façons de faire des plus jeunes. Y a le bal, c'est vrai que ça a été un sacré moment, mais le bal a évolué lui-même hein, entre le bal des paysans qui se choisissent eux-mêmes hein, et qui faisaient un peu les filles et les garçons faisaient un peu le tour de tous hein, dans un village, au bal des années 60 où les parents s'affolaient beaucoup d'ailleurs des surprises parties et etc. Donc même ça inquiétait. Après, ce qu'on a remarqué nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire que de toute façon, globalement, les Français se marient dans leur milieu et avec des gens qui leur ressemblent. Et ça n'a pas beaucoup changé, ça a même une petite tendance à augmenter. Et pour ce qui est de la sexualité, de l'inquiétude sur la sexualité, j'avais 20 ans dans les années 80, Et en chiffres, hein, on faisait beaucoup, beaucoup plus l'amour, les jeunes en tout cas, dans les années 80 que maintenant. Alors, est-ce que les réseaux sociaux mettent à distance aussi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'autres pratiques? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une inquiétude et que cette inquiétude, là, ce qui est très beau maintenant et ce sur quoi faut vraiment s'appuyer, c'est qu'il y a une révolution avec MeToo, avec cette prise de parole des femmes et des filles sur ce qu'elles souhaitent, sur la façon dont elles veulent vivre l'amour. Et ça, voilà, c'est jamais arrivé en 200 ans, et ça, c'est porteur d'une richesse dans nos relations amoureuses qui va être fabuleuse.
Carla Derolle, effectivement, il est assez peu question des réseaux sociaux dans votre documentaire. En revanche, la dernière révolution, la dernière étape en date, c'est vraiment la question du consentement, d'après vous?
Oui, parce que elle s'attaque au dernier lieu véritablement de conflit, c'est-à-dire le pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur les 200 ans, les femmes ont acquis progressivement des droits, notamment sur leur corps, dans les années 70. Et ce qui reste à conquérir maintenant, c'est un rapport égalitaire au niveau du pouvoir.
Et vous disiez tout à l'heure, toutes ces étapes qu'on évoquait, on en a évoqué quelques-unes, elles continuent de marquer nos relations aujourd'hui. Il y a l'idée que les hommes sont des chefs de famille, qu'ils ont des gros besoins sexuels, que les femmes sont passives et sentimentales, qu'elles sont responsables du désir qu'elles inspirent. Tout ça, ça nous marque encore?
Oui, bien sûr, c'est très prégnant. C'est ça qui était justement très intéressant dans cette histoire de l'amour, c'est de voir comment une évolution n'annule pas la représentation, les clichés précédents. Et donc, tout ça s'emmagasine un peu. On l'a vu dernièrement avec l'interview de Gérald Darmanin avec Apolline de Malherbe, où c'est vraiment le stéréotype de la femme prise dans ses émotions.
Où le ministre a dit « calmez-vous madame, voilà, ça va bien se passer ».
Voilà, dès qu'une femme remet en question un homme, c'est une question d'émotion. Elle ne réfléchit pas, elle n'est pas dans le domaine de la raison, elle est dans le domaine de l'émotion. Et ça, c'est vraiment un stéréotype du 19e, où la femme était considérée comme hystérique.
Françoise Davis, vous avez l'impression que ce sujet de l'amour, de l'égalité, du consentement, de la liberté aussi. C'est quelque chose qui existe dans le débat présidentiel aujourd'hui?
Pas tellement. J'écoute pas tout le temps, mais pas tellement. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ça existe beaucoup, alors que c'est quelque chose qui est par contre au cœur de la vie publique. Hein, et ça, c'est très visible. Donc non, pour l'instant, j'ai pas trop entendu parler de ça.
Françoise Davis, réalisatrice et scénariste, Carla Derolle, auteur et historien, ce documentaire L'amour à la française, une autre histoire du sentiment, du plaisir et du couple en France sera diffusé lundi, jour de Saint-Valentin sur France 3 en prime time. Je retiens une phrase, notamment un slogan féministe que je vous livre. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Mais oui.
Et voilà. Et c'est Geneviève Fraisse. Et c'est Geneviève Fraisse qui nous l'a cité. Il faut la saluer. Elle nous a beaucoup aidé.
Merci à tous les deux de nous avoir répondu sur France Inter ce soir. Le téléphone sonne. Ça s'intéresse au dossier médical. Partagez vos appels 01 45 24 7000.